Vous écoutez RTL.
8h39 dans quelques instants. Nous retrouverons bien entendu Laurent Gérard, mais tout de suite la revue de presse avec Adeline François qui met gentiment son casque.
Gentiment.
Et dans la presse ce matin, des monuments du patrimoine.
Rien ne se passe jamais comme prévu. Sans doute les journaux avaient-ils projeté pour leur ultime une avant le devoir de réserve imposé ce soir à minuit de parler de mobilisation citoyenne ou de suspense inédit. Mais rien ne se passe comme prévu dans cette campagne et au dernier moment, les rotatives des imprimeries ont dû mettre un arc de triomphe sur la première page. La plupart des quotidiens consacrent ce matin leur une à l'attentat d'hier soir sur les Champs-Élysées. Le terrorisme frappe à nouveau en plein Paris, titre en une Le Figaro. Un lourd tribut payé par les forces de sécurité depuis 2012, titre aussi Le Quotidien en page intérieure. Attaque sur les Champs-Élysées en une du Parisien qui souligne également que la police est encore frappée. Attentat sur les Champs-Élysées en une de La Voix du Nord. Les autres titres sont plus prudents à l'heure du bouclage et ne parlent que d'une fusillade meurtrière. Hier, c'est le cas de Sud-Ouest. À la une des journaux étrangers, la même photo, une voiture de police devant l'Arc de Triomphe en première page du Wall Street Journal, du Times à Londres ou du Corriere della Sera en Italie qui titre « Terreur sur le vote ». Mais en fait, ce qu'il faut lire ce matin, c'est l'article de Nadia Dam sur le site Slate. Elle raconte sa soirée d'hier devant la télé et les réseaux sociaux. Une fusillade, un attentat, un vol à main armée qui a mal tourné, elle a tout entendu. Elle a lu aussi des personnes qui s'étonnaient que France 2 n'interrompt pas son émission avec les 11 candidats. Tout cela, dit-elle, doit nous interroger sur notre rapport au temps et sur nos soifs d'infos brutes que la télévision s'escrime gaiement à abreuver. Si des Français estiment aujourd'hui que 10 minutes, 5 minutes après un événement, ils doivent impérativement être alimentés en infos, même les plus anecdotiques, et qu'un débat présidentiel doit être interrompu dès les premières secondes d'une attaque, c'est que l'on a un problème, dit-elle. Il va bien falloir un jour interroger ce petit frisson dégueulasse qui semble parcourir l'échine de beaucoup d'entre nous, citoyens, journalistes, politiques, témoins, à chaque fois que nos téléphones vibrent d'une nouvelle alerte sinistre. On lui opposera tout de même l'initiative de ses internautes, relayée ce matin par leparisien.fr, qui ont lancé cette nuit sur les réseaux sociaux le hashtag « Belle chose ». Ils ont posté des photos inspirant sérénité et beauté pour détourner des attentats, photos de coucher de soleil, de paysages idylliques ou de trésors du patrimoine.
Un autre trésor du patrimoine en une.
Oui, il y a l'Arc de Triomphe donc ce matin et puis il y a cette carte d'électeur brandie en une de La Croix présidentielle. Un choix inédit, le choix entre 11 candidats, le choix aussi d'aller voter ou non. Ce choix-là est simple, écrit Guillaume Goubert dans La Croix. Sans hésiter, il faut y aller. Ne pas participer à un tel scrutin, c'est laisser d'autres personnes disposer de votre droit à exprimer un choix. À moins que vous ne votiez blanc. Et dans les DNA, Dominique Young choisit ce matin une mise en garde. Vote blanc, vote snob. Voter blanc, dit-il, est utile dans les dictatures ou en cas d'impasse au second tour, si les deux projets sont pareillement répréhensibles. Mais l'électeur blanc se donne le beau rôle. Au fond, il esquive, il se dérobe, il est plus confortable de se boucher le nez que de mettre les mains dans le cambouis. Comment justifier le vote blanc dès le premier tour si, comme ce 23 avril, les 11 candidats incarnent une palette aussi large? Tellement large que le premier tour qualifiera un duo qui dira tout à coup beaucoup de l'état de notre pays, écrit Cécile Cornudet dans Les Échos. Le Pen-Mélenchon, la France rompt et se replie. Macron-Fillon, la France est libérale. Le Pen-Fillon, elle est à droite. Macron-Mélenchon, elle est à gauche. Le Pen-Macron, c'est le Big Bang, la fin des partis de gouvernement. Vertige d'une élection qui peut montrer du pays un visage dans lequel la majorité ne se retrouvera peut-être pas. Vertige d'une élection où les candidats ont tout à perdre, et plus encore, comme le titre Libération, qui s'intéresse par ailleurs ce matin à ces idées qui n'ont pas émergé dans la campagne, qui figurent pourtant dans les programmes. Ainsi, savez-vous que Mélenchon veut interdire les sondages avant les élections? Que Benoît Hamon veut instaurer un corps d'inspection des discriminations? Qu'Emmanuel Macron s'engage à reconnaître le droit à l'erreur dans les démarches administratives, ou bien encore que Marine Le Pen veut bannir les langues étrangères de l'université. Le monde entier nous regarde, rappelle Nicolas Beytou dans L'Opinion. Le projet France ne dépend plus que de la conscience qu'aura chacun dans l'isoloir de tenir entre ses mains des années et des années.
Alors voilà une bien belle chose, l'isoloir.
Oui, et c'est le philosophe Roger Paul Droit qui nous rappelle dans Les Échos la beauté de cet endroit, qui n'a fait son apparition qu'en 1913. Auparavant, c'est-à-dire depuis l'instauration du suffrage dit universel en 1848, il fallait donner son petit bulletin plié en deux au scrutateur, qui le déposait ensuite dans l'urne s'il en avait envie. Mais l'isoloir, écrit Roger Paul Droit, n'est pas qu'un dispositif servant à préserver le secret du vote. Il faut y voir aussi une mise en scène du fort intérieur, du tribunal de la conscience, de la forteresse de notre âme. Plus d'images, plus de sons, plus de sollicitations extérieures, c'est un espace clos, confiné, où chacun est supposé se retrouver face à sa propre pensée, radicalement seule. Mais sans doute son règne est-il en train de s'achever avec l'apparition horrible de selfies d'isoloir. Du coup, ce moment de l'isoloir est déjà secrètement obsolète. Et la petite cabine pourrait devenir l'image des élections elles-mêmes, voire de la République. Tout tient encore, tout fonctionne, mais chacun pressent qu'il s'agit de survivance d'un autre temps, sans qu'on sache clairement quel sera le temps d'après, ni de quoi il sera fait. C'est à lire dans Les Échos, qui titre ce matin sur « La France face au danger des extrêmes », avec la photo d'un trésor de notre patrimoine. Ce n'est pas un isoloir, c'est Marianne et sa statue érigée sur la bien nommée place de la République. On s'y réunit les lendemains d'attentats, sans toujours savoir qu'au pied de cette statue est placé un lion en bronze qui symbolise le suffrage universel.
Adeline François pour la revue de presse.